Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la poésie. La poésie qui connaît autant de définitions qu'elle regroupe d'adeptes, c'est entendu. Pourtant, l'histoire littéraire montre que des courants existent bel et bien, que des poètes partagent des convictions communes sur les possibilités même du langage. Parmi celles-ci, l'idée que le poème est affaire de mouvement, de quête vers un arrière-pays plus vaste, comme dirait Yves Bonnefoy. Cette conception, on la retrouve au cœur d'un bel ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'Harmattan, intitulé « Poésie, mobilité de l'esprit ». Il est signé Anne Munich, qui est elle-même poète et maître de conférences à Paris, Sorbonne Nouvelle. Son étude fait la part belle à des poètes comme Edgar Poe, Emily Dickinson, Léopold Senghor et Gustave Roux. Quatre figures sur lesquelles elle a accepté de s'arrêter pour nous.
Effectivement, le titre de l'ouvrage, c'est « Poésie, mobilité de l'esprit ». Donc, ce qui veut dire que je rapporte la poésie au mouvement de l'esprit, au franchissement d'un certain nombre de seuils qui sont déterminés par l'expérience. Donc, l'esprit est appelé à franchir des épreuves existentielles et à élargir en même temps son domaine d'expérience. Les seuils sont multiples, c'est la perception, je vais y revenir en parlant de Blake et des portes de la perception, des seuils temporels, l'aube, le soir ou cette saison intermédiaire qui plaît beaucoup à Gustave Roux qui est l'automne, octobre notamment, mais aussi le deuil, l'absence, la mort chez Lawrence, chez Grace par exemple et puis chez tous les autres poètes dont je parle, c'est fondamental, mais aussi l'accès à l'autre, le regard de l'autre constituant lui aussi un seuil.
Autrement dit, le poème et l'expérience poétique, Anne Munich, ça serait de mettre en lien un ici avec un ailleurs. Il y a un mouvement qui tend toujours vers l'ailleurs.
Ah oui, il y a un mouvement qui tend toujours vers l'ailleurs, vers une connaissance qui n'est pas donnée au préalable, que le poème révèle. Hein. C'est en ce sens que le poème est mouvement, il est mouvement au sein de l'expérience et il relie le poète à l'expérience et au réel. C'est une sorte de, disons, de dialectique de l'objectif. Cela revient un peu à la connaissance, je reviendrai, dont parle Claudel.
Vous parliez alors tout à l'heure de la perception, alors peut-être évoquer ça, puisque bien des poètes font appel à une expérience du sensible pour la dépasser, Anne Munich.
Oui, alors la perception, là on en revient à Blake avec les portes de la perception. Blake parle des portes de la perception qu'il faut purifier, dit-il, pour accéder à un autre niveau de connaissance. Et cet autre niveau de connaissance, c'est celui que procure ce qu'il appelle le génie poétique et l'imagination. Il dit le génie poétique, c'est l'homme. Huxley, Aldous Huxley, qui est plus connu pour son livre Le meilleur des mondes, a repris ce titre, Les portes de la perception, pour décrire son expérience des paradis artificiels. Il a fait le même type d'expérience qu'Henri Michaux. Et là, on sent qu'il vise à percer l'essence de l'être. Je vais vous lire ce qu'il dit sur cette expérience. Il s'agit de la connaissance de la signification intrinsèque de tout ce qui existe. Pour l'artiste comme pour celui qui prend de la mescaline, les draperies sont les hiéroglyphes vivants, représentant d'une façon singulièrement expressive l'insondable mystère de l'être. Donc là, on retrouve dans cette évocation de l'insondable mystère de l'être une dimension de seuil, et on s'apercevra que le monde des ombres, qui est représenté par le souterrain de l'Hadès, c'est aussi le monde de l'intérieur, l'expérience de soi, en quelque sorte. Hein.
L'Hadès, vous venez d'en parler, Anne Munich, c'est une figure importante, mais aussi la figure de Hermès. Hermès, voilà. Le dieu des seuils, le dieu aussi des stèles funéraires. En quoi est-ce qu'il a à voir avec la poésie ?
Bien, Hermès est mouvement. Hein. Et j'ai conçu cette idée des seuils, de la poésie comme mouvement, à partir de mon étude de Steve Smith, qui nomme ambassadeur le dieu psychopompe, c'est-à-dire celui qui conduit les âmes au monde d'en bas, Hermès, dont la mobilité s'étend dans l'espace de l'Olympe au monde souterrain, mais qui règle aussi le commerce entre les hommes comme dieu des marchands, des voleurs, de la persuasion mais aussi du mensonge et bien sûr des poètes. Hermès, c'est la représentation de la mobilité par excellence. Il va au monde souterrain et il en revient, ce qui est le plus difficile à faire, hein, comme le dit la Sibylle de Cume à Énée, et les portes devant lui s'ouvrent et se ferment.
parmi les qui sont au cœur de l'expérience poétique, dans ce rapport aussi à ce que peut être la mort, Anne-Monique, j'aimerais maintenant qu'on réfléchisse à la part que la biographie de certains poètes, le parcours biographique de certains poètes a pu apporter et légitimer. En quoi est-ce que la vie d'Edgar Poe, la vie d'Emily Dickinson, la vie de Leopold Senger ou la vie de Gustave Roux ont nourri leur projet poétique?
Oui. Si l'on considère que la poésie est un questionnement existentiel, on ne peut nier que les événements de la vie, de l'existence, jouent leur rôle. Mais je crois qu'il faut bien situer le problème. Il ne faut pas oublier que le processus poétique est un processus de transmutation. C'est-à-dire que, comme l'a dit Rimbaud et comme le reprennent beaucoup de poètes, « je » est un autre. Et le poète, au-delà du biographique, se rêve, s'imagine. On citera évidemment chez Poe le contact répété qu'il a eu avec le deuil, la mort de sa mère, la mort de sa très jeune femme. Mais il faut aussi savoir qu'il n'ignorait pas du tout quelle était l'efficacité littéraire du thème de la mort. Pour lui, le thème poétique par excellence, c'est la mort de la femme aimée, la mort de la beauté. Pour ce qui est de Emily Dickinson, évidemment, on parlera de sa vie recluse, consacrée à la poésie et à sa famille aussi. Elle s'occupait de sa mère. Elle s'est toujours conçue comme enfermée, prisonnière, faisant allusion dans ses lettres au prisonnier de Schillen de Byron, enfermé dans sa forteresse.
Emily Dickinson qui a mené une vie recluse, hein, il faut le rappeler,
oui.
Dans sa communauté de Nouvelle-Angleterre,
oui,
dans les années 50, les années 60, Monique.
Oui. Emily Dickinson avait une attitude curieuse par rapport à l'autre. Elle communiquait par des lettres. Une énorme correspondance qui nous renseigne d'ailleurs beaucoup sur la genèse de ses poèmes et sur ses états d'âme en quelque sorte. Elle a communiqué notamment avec beaucoup d'hommes, mais elle a à l'égard de l'accès à l'autre, disons, une attitude complètement ambivalente. Elle est capable de souhaiter la présence de l'autre, mais aussi de le rejeter pour rester dans ce monde poétique des essences, ce monde idéal en quelque sorte.
Et qu'en est-il alors de Senghor, précisément, toujours du point de vue du...
Alors, chez Senghor, c'est une expérience originale. Chez Senghor, on trouve une double appartenance. Il est né à Joal, qu'on appelle Joal la Portugaise, c'est sur la côte, un peu au sud de Dakar, dans une communauté sérère. Et jamais il n'a renié cette appartenance, qui est une appartenance profondément poétique, profondément sensible chez lui. Mais en même temps, très jeune, il est allé suivre une éducation chrétienne. Donc se sont mêlés deux spiritualités en quelque sorte, le christianisme qu'il a apprécié et qu'il a adopté et cet animisme de l'Afrique qui se contient aussi dans les poèmes qu'il a aimés de sa culture natale. Ensuite il est venu à Paris dans les années 30, il a été élève des classes préparatoires, il est devenu agrégé de grammaire, il a enseigné en France, donc il s'est imprégné d'une culture gréco-latine et de toute cette culture poétique occidentale, notamment le romantisme allemand et le symbolisme français. Il parle énormément de Rimbaud, cite énormément La saison en enfer. Donc en fait, chez Senghor, on parlera de conciliation des contraires et par cette conciliation des contraires, d'une écriture très originale parce qu'elle va mêler deux types de langage. Et j'y reviendrai.
Oui, on va y revenir et peut-être terminer parmi les quatre poètes qui nous intéressent aujourd'hui, plus spécifiquement Anne-Monique, avec Gustave Roux, s'agissant du parcours biographique de Roux. Roux, alors qui, au contraire quand même de Senghor, et dans un paysage, un ancrage permanent dans une terre, cette terre de Carouge. Comment expliquer alors chez lui cet appel de l'ailleurs du point de vue de son ancrage géographique?
Chez Gustave Roux, et il le dit d'ailleurs dans une lettre à Stephen Paul Robert, existe cette préoccupation de la double origine familiale. D'une part, des intellectuels et des pasteurs, donc des hommes de religion dans ce contexte puritain que souligne Philippe Jacotet, hein, et d'autre part, des paysans. Donc il est pris, et je crois que ça caractérise son œuvre, constamment entre cette vénération quasiment du monde rural et des figures du monde rural et cette vénération du verbe. Son œuvre finalement, c'est comment mêler ces deux préoccupations, comment faire du verbe la spiritualisation de la chair et de cette vie rurale.
De vie qui est à l'opposite de la vie des villes, dans laquelle le grand souci semble être précisément de se lier. Je pense que cette vie, selon les saisons, pourrait paraître à certains dangereusement monotone. Ramu a dit un jour à ce sujet une parole décisive. La nature ne se répète jamais. C'est nous qui nous répétons. Pour ma part, si j'imagine un poète au comble de sa puissance, je le vois comme un homme capable d'accueillir chaque matin qui commence comme le premier matin. Je vois sa vie tout entière résumée en le mot « quête », qui est le contraire d'enquête, car le poète n'interroge pas le monde, il attend sa réponse, ses réponses.
Alors, Anne-Monique, j'aimerais maintenant qu'on passe à la question spatiale. On a évoqué le biographique ensemble avec vous, toujours dans cette réflexion sur la mobilité et mobilité de l'esprit au cœur du travail poétique. Réfléchir avec vous maintenant à l'espace, à l'importance de l'espace et au traitement poétique réservé à l'espace, pour nous arrêter sur Edgar Poe, qui à bien des reprises dans bon nombre de ses nouvelles enferme ses personnages. Mm-hmm. Ils sont retenus toujours dans, ça peut être une chambre, ça peut être une maison, tout ça est toujours de l'ordre du cloisonnement. Et comment comprendre sa démarche?
Oui, chez Poe, c'est relativement évident, l'espace est clos. Et l'espace est clos tout simplement parce que la vie est cernée par la mort. Ne serait-ce que parce qu'elle induit la culpabilité du vivant, de celui qui reste. Et dans son œuvre, on se trouve face à deux types d'attitudes. D'une part, la fascination exprimée par la répétition, par la réitération, hein, dans le poème Le Corbeau, où le jeune homme qui fait l'expérience entend des petits coups frappés à l'ouverture et se demande ce qui peut se passer. Arrive un corbeau qui se perche sur le buste d'Athéna. Il ouvre la porte sur l'extérieur et ne trouve bien sûr que le néant. Hein.
Est-ce que pour Poe, justement, cet enfermement a à voir avec la femme aimée qui est toujours une femme morte, disparue, Anne-Monique? La femme est toujours celle qui manque.
Oui, bien sûr, c'est l'absence. Il est confronté sans cesse à l'absence. Mais on s'aperçoit aussi en lisant ses œuvres que la mort, l'absence, exerce une inéluctable attraction. C'est le cas dans un autre poème qui s'appelle « Ulalum », où le poète est conduit peu à peu jusqu'à la porte, enfin aussi loin que le regard peut atteindre, jusqu'à la porte de la tombe de sa bien-aimée. Et cela, on le retrouve dans les nouvelles, que ce soit l'Aegia ou Bérénice. Et dans ces cas-là, le style, au moyen de ce que Henri Morier appelle l'escamotage, c'est-à-dire ne pas dire, et l'estompage, rendre vague, tente de suggérer l'horreur et le mystère.
Maintenant, on peut passer à Emily Dickinson et puis peut-être l'envisager conjointement avec Senghor en contrastant les deux expériences anmoniques. Emily Dickinson qui propose dans bon nombre de ses poèmes des évocations de paysages, quelque chose qui est de l'ordre de l'hermétisme, dites-vous. Et puis de l'autre côté, alors Senghor qui lui est dans quelque chose d'aussi hermétique, mais du côté alors des références culturelles, puisque semble-t-il, il essaye de conjoindre le monde de la Grèce mythique qu'il connaît bien avec l'expérience du monde africain.
Associer Emily Dickinson et Senghor, j'hésite un peu. Bon, chez Emily Dickinson, on se trouve toujours sur le seuil de l'au-delà. Hein. Alors, cela va être l'au-delà de soi, c'est-à-dire l'autre, le regard de l'autre, dont, je l'ai dit tout à l'heure, elle a une vision relativement ambiguë, mêlée de désir et de refus. C'est aussi l'au-delà du visible, c'est-à-dire Dieu, les promesses du dogme, mais elle rejette le dogme puritain, et elle conserve quand même comme figure divine l'image du Christ, comme figure de l'incarnation. Donc, expression finalement de l'expérience, de la vie visible. Alors, par rapport à Senghor, c'est difficile parce que Emily Dickinson a une expression qui se caractérise par la réticence. Rien que visuellement, ses poèmes sont fragmentés avec ce tiret qu'on trouve toujours, qui sert de ponctuation, qui sert de suspension en quelque sorte du discours. Tandis que chez Senghor, il a repris à Claudel le verset, hein, donc un souffle, hein, quelque chose qui coule. Et en plus, dans la tradition africaine, le lien avec l'autre monde est constant justement. Pour Senghor, l'idée de négritude, c'était la prévalence du monde de l'imagination, de l'émotion, qui rapportait d'ailleurs au romantisme allemand par rapport à ce qu'il considérait comme la tyrannie de la raison.
Un romantisme, une inspiration qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Gustave Roux, Anne Monique. Roux très inspiré, très imprégné par la ratio allemande et qui est vraiment aux antipodes de ce que serait une poésie positiviste ancrée sur l'ici et maintenant. Comment est-ce que vous entendez l'expérience de Roux dans cette quête de l'au-delà, lui qui se dit tellement seul? Est-ce que c'est sa solitude qui l'appelle vers autrui?
Alors oui, effectivement, Roux était très, je pense, influencé par le romantisme allemand. Hein. Il a traduit bon nombre de poètes romantiques allemands, donc c'était vraiment un constant souci pour lui. Je pense que peut-être on peut partir de cette conscience dont j'ai déjà parlé un peu, de l'écartèlement entre le monde du verbe et ce qu'offre le monde rural. Il lui faut sublimer les personnages des moissonneurs, tous ces personnages qu'il rencontre dans sa vie quotidienne, pour les faire accéder à la vie plus que vie, à une forme donc d'absolu. Et là, je rapprochais plutôt Roux et Emily Dickinson, en fait. mais aussi peut-être on peut le rapprocher de Keats par l'idée de la personnalité multiple du poète qui est le reflet de toute vie et qui le développe dans ses textes. Il montre que le poète ne vit pas une seule vie mais toutes les vies parce qu'il reflète toutes les vies et donc celle de ses personnages, c'est presque ses modèles, hein. Il en a fait des photos aussi qui sont très parlantes, très, très émouvantes, dans lesquelles d'ailleurs dans la plupart des cas l'élément vivant, que ce soit par le travail, les semences, la moisson, si je me souviens bien des photos, je les ai quand même assez bien dans l'esprit, ou bien le corps lui-même occupe la place centrale.
Parfois je redescends vers le bosquet riverain de sapins et de frênes, où ma vie a reçu jadis sa secrète blessure d'éternité. Je retrouve un lieu sans mémoire, absent et familier tout ensemble, et prodigue d'une telle douceur d'accueil que je n'ose plus l'interroger, comme un hôte dont la parole s'embarrasse. Sous l'arc des zones, le ruisseau brise et brouille aux pierres noyées toute une écume de syllabes, se reprend soudain avec d'étranges rires de gorge, change de voix et de reflets, double au miroir d'une seconde l'épirose d'un épilogue, puis détaille distinctement une phrase si proche de l'humain que je m'épuise à la vouloir saisir, tandis qu'à mon épaule grésille une petite pluie d'aiguilles et d'écorces, la salutation là-haut d'un écureuil.
Vous-même, Anne-Monique, vous êtes poète, vous écrivez de la poésie. En quoi est-ce que ces expériences-là qu'on vient d'évoquer ensemble ont nourri votre propre démarche? Est-ce que pour vous qui pratiquez l'écriture poétique, il faut aussi l'entendre dans cette idée de mobilité?
Oui. Étudier l'œuvre des autres, l'œuvre qu'on aime évidemment, et j'ai beaucoup d'admiration pour Emily Dickinson, pour Senghor, pour Gustave Roux et tous les poètes que j'étudie, c'est vraiment cet accès à l'autre. Et là, ça se rapporte peut-être à une autre œuvre que j'admire, même si je ne suis pas philosophe, c'est celle d'Emmanuel Levinas, quand il dit que l'expérience moderne de la transcendance, c'est l'expérience du regard de l'autre, et il a des paroles extraordinaire à cet égard, et quand il dit aussi que l'accès à l'autre c'est une herméneutique, et là on retombe justement sur ce seuil. L'œuvre de l'autre c'est un seuil, donc elle permet d'avancer, elle permet de progresser dans la quête poétique. Je partage aussi avec beaucoup de poètes modernes le goût pour la traduction, cette espèce de métamorphose du texte que permet de faire la traduction, toujours dans cette idée justement de poésie comme quête existentielle, comme mouvement de l'esprit, aussi bien par l'œuvre des autres, par son œuvre, et tout évolue et tout ajoute à l'expérience, tout élargit l'esprit. Pour moi, c'est profondément une spiritualité, sans Dieu, hein, je ne suis pas croyante, mais je crois au moins en cette exaltation de la vie que donne la poésie. C'est pour ça que de Gustave Roux, la spiritualisation de la chair, ça me paraît quelque chose d'essentiel.
Pierre Le Pape à propos de la politisation de la littérature au XXe siècle, Je vous rappelle qu'il vient de publier un ouvrage très riche sur la question, Le pays de la littérature, c'est ainsi qu'il s'intitule. Il paraît aux éditions du Seuil. Vous trouverez les références exactes sur notre site espace2.ch, émission Entre les lignes. Entre les lignes, production de Louis-Philippe Ruffy, on se retrouve demain à 11h où Florence Grivel nous fera découvrir le travail d'Anna Mirales, une auteure de bande dessinée espagnole tout à fait à part dans le registre érotique qu'elle explore depuis plusieurs années. Merci à Françoise Yeni et Marie-Claude Cudry qui ont réalisé cette émission et à Sébastien Maire qui m'a assisté dans sa production. Restez à l'écoute, à 11h30 vous avez rendez-vous avec Méridienne, l'émission de Claude Dalcher, pour l'heure les informations culturelles. Infoculture.
Raphaël Aubert.